Chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans l'émission Coachella sur Radio Judaïka, une émission de développement personnel où nous abordons aussi bien la dimension mentale qu'émotionnelle que physique. Et cette émission est diffusée les mercredis à 10h et rediffusée les jeudis à 15h30 et disponible dans notre librairie Coachella sur Spotify. Et chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui, j'ai le plaisir, une fois de plus, de pouvoir accueillir Isabelle Metz, et qui est nutrithérapeute et autrice, du livre « Ton alimentation, ta médecine ». Mais ça fait j'ai un énorme plaisir à te réaccueillir aujourd'hui. En plus, là, on aura le temps de continuer l'aventure, car tu avais déjà déposé certains concepts, mais voilà, je te passe vraiment la main.
Merci beaucoup, Nathalie. Alors, c'est vrai que dans la première émission, on a évoqué l'importance de la santé intestinale.
Oui.
On a également parlé de la prise de poids. Mais portée par l'enthousiasme, on n'a pas eu le temps d'être complète.
Donc,
je vais tâcher de l'être cette fois-ci. Et je commence alors par la santé intestinale. Donc, j'avais déjà parlé à quel point cette santé est vraiment centrale pour les autres sphères de l'organisme. On avait parlé de la santé mentale, de l'immunité, du métabolisme. Par contre, je n'avais pas dit quels étaient les principaux problèmes intestinaux que l'on rencontre assez fréquemment et comment y remédier. Donc, je vais remédier à ce manquement.
On va compléter cette liste alors, si je comprends bien.
Voilà, exactement. Alors, je ne parle pas ici de maladies plus spécifiques comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, mais je vais vraiment parler des trois problèmes intestinaux les plus courants qui sont l'inflammation, la dysbiose et l'hyperperméabilité intestinale.
D'accord. Et la dysbiose, tu vas la définir ?
Eh bien voilà, donc je vais commencer par la dysbiose puisque tu m'y invites. C'est en fait un déséquilibre entre les familles de nos bactéries intestinales, puisque donc il y a plusieurs types de bactéries et pour que les choses soient en équilibre, il faut une certaine proportion entre ces différents types. Et ce déséquilibre fait qu'on n'en tire plus assez de bénéfices. Ce qui est problématique, on l'a vu la fois dernière, donc il y a différentes options possibles pour rétablir l'équilibre. Et très souvent, on doit recourir à une supplémentation, notamment en probiotiques.
Oui.
On en a parlé la dernière fois.
La dernière fois, on l'a évoqué, oui.
Ainsi qu'en acides aminés, principalement la glutamine et l'arginine. Maintenant, évidemment, la question est de savoir, est-ce qu'on a ou pas une dysbiose quand on ressent un inconfort au niveau intestinal ? Il y a effectivement des symptômes sur lesquels on peut se baser, mais il est toujours mieux de s'aider de tests biologiques, donc d'analyses de sang et d'urine. Et en l'occurrence, on peut assez facilement mesurer les bactéries dans les urines. Donc le diagnostic est assez facile à faire.
D'accord. Donc ça, c'est avec vraiment un suivi médical, en fait.
Oui, exactement. Avec une mesure, en tout cas médicale, qui confirme le diagnostic. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse toujours par rapport à cette dysbiose pour dire que lorsqu'on prend des antibiotiques, quelle qu'en soit la raison, que ce soit une raison intestinale ou autre, il faut savoir que les antibiotiques tuent également une bonne partie des bactéries intestinales. Ils ne sont pas nécessairement extrêmement précis, donc ils créent des dégâts à ce niveau-là. Et donc, pour chaque prise d'antibiotiques, on ne le sait pas assez, mais il est vraiment recommandé de prendre également des probiotiques.
Oui. Ouais.
Et de le faire si possible avant, si on peut anticiper la prise des antibiotiques, de déjà commencer avant, pendant et jusqu'à 2 semaines, voire 3 semaines après. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est ne pas les prendre évidemment exactement au même moment, sinon on contrecarre leurs effets respectifs. Mais on prend à ce moment-là les probiotiques environ 3 heures après avoir pris l'antibiotique. Et comme ça, on évite le problème au niveau intestinal, la perte de ces bonnes bactéries. J'aborde peut-être le deuxième problème, l'inflammation.
En tout cas, là, tu soulignes quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'il y a des médecins qui y pensent. Enfin, moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir une médecin qui systématiquement... Alors déjà, elle disait, on n'a pas le choix. Un antibiotique est incontournable ici. Et elle prescrivait ça, mais ce n'est pas systématique. Donc, c'est super que tu... Que tu le mentionnes
c'est
pour les auditeurs
systématique. Tout à fait, on peut pas jeter la pierre aux médecins, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas tout savoir, mais effectivement, soyons chacun sensibilisés à ce fait-là, essayons d'avoir ce réflexe prise d'antibiotiques égale en fait prise également de probiotiques.
De probiotiques, voilà.
Alors, concernant l'inflammation intestinale, ça c'est un problème qui peut avoir plusieurs causes. Et en plus, on est tous différents, comme je l'ai souligné lors de la première émission. Donc, certaines personnes ont simplement des intestins un peu plus sensibles que d'autres. Et par exemple, peuvent moins bien supporter les fibres non solubles des fruits et des légumes crus. Mais malgré tout, le plus souvent, c'est une consommation excessive d'aliments inflammatoires qui est en cause. Alors,
Pas forcément les fibres. Alors,
pas forcément, effectivement. Okay. En général, quand ce sont les fibres, on le sait, on le sent, on a observé on a observé le lien de cause à effet. Mais il y a des causes en effet plus pernicieuses, cette fameuse consommation excessive d'aliments inflammatoires. Maintenant, la question est de savoir quels sont les aliments inflammatoires. Alors, c'est assez simple. C'est tout d'abord ceux qui sont riches en acides gras saturés. C'est le cas de la viande rouge, c'est le cas du fromage, par exemple.
Ah bah oui. Ouais.
Ceux contenant des toxiques ou préparés d'une manière toxique, on aura peut-être l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine émission. Les toxiques, je parle essentiellement des additifs. Les préparations de manière toxique, ça c'est un petit peu plus compliqué, c'est les modes de cuisson, etc. Troisièmement, l'alcool est inflammatoire. Quatrièmement, le fructose, sauf celui qui est présent dans la matrice des fruits. Donc là, je parle plutôt du fructose qu'on rajoute dans des préparations toutes faites. Ensuite, cinquièmement, les aliments riches en sucre rapide, ceux riches en sel et enfin ceux riches en gluten. A contrario, il y a des aliments anti-inflammatoires.
D'accord.
Et ça, ce sont heureusement ceux qui sont riches en vitamines et minéraux, riches en acides gras oméga 3, en vitamine D, en zinc, en polyphénol, et là on peut se faire plaisir, il y a notamment le chocolat noir qui fait partie des polyphénols.
Il y a d'autres vertus aussi apaisantes.
Tout à fait. Et enfin, deux substances, le dialyl disulfide qu'on trouve dans l'ail, les oignons et les poireaux, et le sulforaphane qu'on trouve dans les crucifères, les radis, la moutarde et une série d'autres végétaux. Donc, si on garde ça en vue, les aliments inflammatoires et ceux anti-inflammatoires pour l'intestin, on peut s'éviter des soucis ou résoudre des soucis existants.
Ce que j'entends, excuse-moi parce que je toussais, donc j'avais juste réduit le micro momentanément. Ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi cette notion d'équilibre. Donc, c'est pas forcément tout arrêter, mais d'être vigilant, conscient et de compléter, donc d'avoir une alimentation qui permette vraiment de rester dans ces ajustements.
Tout est une question d'équilibre, ne pas être trop pro-inflammatoire, ne pas être trop acide. Enfin, on retrouve cette notion d'équilibre dans pas mal de paramètres liés à l'alimentation. Alors, le troisième problème assez fréquent, c'est l'hyperperméabilité intestinale. C'est autre chose. Ça, c'est en fait le fait que la paroi intestinale, qui est en principe faite pour faire un peu un gardien de porte de prison, laisser passer certaines substances et pas d'autres, entre les intestins et la circulation sanguine, c'est le fait que cette paroi devient trop perméable et laisse passer des choses qui ne devraient pas passer dans le sang, notamment des fragments de bactéries intestinales, des morceaux de protéines non digérées, etc. Et ça, c'est un problème plus embêtant parce qu'il peut notamment mener à des maladies auto-immunes. Et ça arrive en fait quand une protéine de l'alimentation qui n'a pas été suffisamment décomposée passe dans le sang alors qu'elle ne devrait pas passer, le système immunitaire la considère comme un corps étranger, donc absolument. Il réagit, il la prend en charge. Et malheureusement, dans certains cas, il y a des protéines de notre propre corps qui ressemblent à cette protéine qui a été prise en charge. Et à ce moment-là, notre propre corps s'attaque également à ces protéines-là.
D'accord, ok. C'est très clair comme explication.
Et il faut donc, non seulement c'est très clair comme problème, et donc l'explication est claire également, mais donc il faut absolument traiter une hyperperméabilité avant qu'elle ne fasse ce type de dégâts. Et là aussi, on peut s'aider sur un diagnostic sur base de symptômes et également sur des analyses biologiques. D'accord. Où là, très concrètement, on a deux marqueurs qu'on peut mesurer, la LPB et la zonuline. Je ne vais pas entrer dans les détails trop techniques.
Et comme symptômes, qu'est-ce qu'on a qui pourra aider les auditeurs, auditrices éventuellement à
le symptôme, tout à fait, effectivement, bonne question. Le symptôme principal, c'est que comme l'intestin ne fait plus, enfin la barrière intestinale plutôt ne fait plus son rôle de gardien de la porte de la prison, donc il y a des substances indésirables qui passent. Et à contrario, ce qui devrait passer se retrouve noyé dans toute une masse. Et donc, il y a une perte d'absorption des nutriments. Et donc, notamment, on peut se rendre compte qu'on a des carences. D'accord. Ça, c'est un symptôme assez fréquent. Ah, okay. La fatigue en est un autre. Des dérangements intestinaux, de manière assez localisée, donc que ce soit ballonnement, douleur, diarrhée, etc., peuvent également mettre sur la piste.
D'accord. Et qui sont alors plutôt structurels, pas ponctuels suite à un repas,
oui,
mais
effectivement,
après un certain temps.
On remarque effectivement sur une longue période, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'affilée.
D'accord.
Donc pour conclure sur ce point-là de la santé intestinale, comme on avait dit la dernière fois, c'est vraiment le point d'attention, c'est le premier point d'attention que nous devrions chacun avoir par rapport à notre santé de manière générale. Et si nous observons des problèmes, si nous ressentons des problèmes, il faut essayer de regarder, de voir sur base des symptômes s'il ne s'agit pas d'une inflammation, d'une dysbiose ou d'une hyperperméabilité et le cas échéant la traiter, puisqu'effectivement cette santé intestinale va conditionner notre santé mentale, notre immunité, notre métabolisme,
oui, tout à fait, on
entre autres
vu,
choses.
Voilà. Tout était interconnecté. Mmh. Et si tu pouvais alors juste faire une toute petite synthèse de quelques aliments, quelques conseils, quelques gestes en plus des suivis médicaux et de bien écouter son corps. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un top 3 dans les aliments que tu préconiserais? Enfin, je simplifie à outrance, hein. Excuse-moi Isabelle.
Non, effectivement. Alors je peux essayer de faire un top 3 effectivement en disant qu'il ne faut surtout pas faire l'impasse sur les acides gras oméga 3 qui sont vraiment de puissants anti-inflammatoires.
D'accord.
Au niveau intestinal. Et qu'on trouve en partie dans des huiles végétales et en autre partie, parce qu'il y a trois catégories d'acides gras oméga 3, c'est pas pour ça qu'ils sont appelés trois, mais quoi qu'il en soit, il y en a trois. Les deux derniers qui sont en fait les plus importants, les plus anti-inflammatoires, se trouvent surtout dans les poissons gras. Mm-hmm. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont amenés à se supplémenter en acides gras oméga 3 parce qu'ils ne souhaitent pas ou ils n'aiment pas tout simplement consommer du poisson ou du poisson gras. À ce moment-là, c'est vrai que la complémentation peut avoir toute son importance. Et je mettrai dans le fameux top 3 en deuxième position la vitamine D, qui est également très anti-inflammatoire et qui en plus intervient dans des tas de processus métaboliques de manière positive. Et je rappelle, je l'avais dit la dernière fois, que la quantité à viser en vitamine D à avoir dans son sang est de 70 nanogrammes par millilitre. Et que si on est en dessous, il faut vraiment se supplémenter parce qu'il est pratiquement impossible à l'heure actuelle de la trouver dans l'alimentation en quantité suffisante, ni sous nos latitudes en tout cas, de favoriser sa synthèse endogène par l'exposition à la lumière du soleil. Et alors, puisque tu m'as demandé un top 3...
Un top 3, on en a là, deux.
Voilà.
Troisième.
La troisième chose que je dirais, c'est de vraiment être attentif à tout ce qui est dérangement intestinal. En tout cas, tout dérangement intestinal qui n'est pas juste transitoire après un repas en particulier.
D'accord.
Il ne faut pas tarder à réagir, en fait. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Voilà.
Ok. Voilà. Chers auditeurs, auditrices, nous venons de parler d'un des chapitres... qui n'était pas tout à fait clôturé. Mmh. Et j'entends que tu en avais d'autres, Isabelle. Donc,
oui.
Sur lequel tu voudrais...
Alors, la dernière fois, nous avions parlé de la prise
explorer.
De poids.
Oui.
Et nous avions mis le doigt sur le fait que souvent, une prise de poids qui n'a pas vraiment d'explication logique ou une perte de poids qui n'arrive pas malgré une restriction d'apport alimentaire, restriction qui n'est d'ailleurs pas toujours une bonne idée, je l'avais dit également, c'est normal parce que la prise de poids peut être tout à fait multifactorielle et souvent pour nous les femmes à partir d'un certain âge, à partir de la ménopause, elle est effectivement multifactorielle. Et j'avais la dernière fois parlé de certains de ces facteurs, notamment l'anxiété, le stress, la mauvaise gestion des émotions.
Tout à fait.
On avait parlé également d'un deuxième facteur, la sédentarité, le manque d'exercice. Ouais. Et enfin, on avait parlé d'un troisième facteur, le manque de sommeil ou les perturbations du sommeil, comme celles que connaissent les personnes qui travaillent de nuit. Mais il y en a d'autres, en fait il y en a 6 autres. Alors, sous réserve du temps qui nous est disponible, je vais les citer et dire quelques mots d'explication. Tout d'abord, je les cite, comme ça on est sûr de ne pas tomber à court de temps. Il y a point 4, les problèmes intestinaux, mais ça tombe bien, on vient d'en parler. Mm-hmm. Cinquième point, c'est l'hypothyroïdie,
oui,
qui est en fait un ralentissement du métabolisme sous l'effet du ralentissement de l'activité de la thyroïde. et qui de facto entraîne une prise de poids qui n'a pas d'autre origine que cette hypothyroïdie. Ensuite, sixième point, certaines maladies comme l'hypercorticoïsme, mais il y en a d'autres, peuvent également entraîner une prise de poids. Septième point, et ça je trouve que c'est important, c'est la carence en certains nutriments. Par exemple, une carence en magnésium limite les possibilités de production d'énergie au départ des apports alimentaires.
D'accord.
Or, ce qui n'est pas utilisé pour la production d'énergie est forcément en partie stocké. Alors, huitième point, l'excès de sel. Ça paraît tout à fait paradoxal, puisqu'a priori, on ne voit pas en quoi le sel qui n'est pas calorique pourrait favoriser la prise de poids, mais en fait, si. Parce qu'il a un impact sur l'insuline et donc sur l'effet qu'a l'insuline du stockage des sucres sous forme de graisse. Neuvième point, c'est la résistance à l'insuline, qui est en fait quelque chose d'assez pernicieux, tout comme d'ailleurs l'hypothyroïdie, parce qu'il n'est pas évident de se rendre compte qu'on souffre d'une résistance à l'insuline. Mmh. La prise de poids peut mettre sur la voie. Et là, heureusement, on peut également se fier à des marqueurs biologiques, donc à savoir l'insuline à jeun et la glycémie à jeun, deux mesures utilisées pour calculer des index, il y en a deux, les deux se valent, OMA ou QUICI, et sur base de ce calcul, on peut se rendre compte si oui ou non on a une résistance à l'insuline. Voilà. Et puis enfin, la prise de certains médicaments, il ne faut pas sous-estimer cet impact, il y a certains médicaments qui entraînent des modifications, des perturbations métaboliques qui donc entraînent une prise de poids. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment toute une liste qui est importante et qui est très, très complète. Et c'est vrai j'ai l'impression qu'on a, quand j'entends certaines personnes parler, que certains points sont éclairés, mais pas d'autres, en fait. Oui. C'est comme si, j'entends souvent, on a comme une partie de la liste. Mais là, aujourd'hui, elle était vraiment très exhaustive. Et alors, par rapport à ces points, quel est celui que tu voudrais développer ?
En fait, moi, je trouve important de dire que il faut pas rester seul face à un problème de surpoids, parce que c'est vrai que ça peut être assez douloureux au niveau psychologique, d'une part, mais en plus, le surpoids est en effet lié à différents problèmes de santé. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas montrer du doigt les personnes en surpoids comme étant des personnes qui manquent de volonté ou qui mangent n'importe comment et qui mangent mal.
Non, exact.
Très largement, ça peut ne pas être le cas du tout.
Multifactoriel, en fait.
Exactement. Mm. Et donc, la troisième chose liée aux deux premières, c'est que si vraiment il y a un problème de gestion du poids, de surpoids, il ne faut pas hésiter à consulter et à aller voir un ou une nutrithérapeute pour faire cet exercice de passer les différentes causes possibles en revue, d'identifier celles qui sont propres à la personne en question. Et à ce moment-là, une fois que l'identification est faite, pas de panique, rassurez-vous, il y a des solutions relativement simples. Et je voudrais peut-être aussi refaire ma mise en garde par rapport au régime restrictif.
Oui, tu en avais déjà bien parlé la dernière fois.
Effectivement. Alors, ils ont deux effets pervers, je les résume très, très brièvement. Donc, le premier, c'est le fameux effet yo-yo. Donc, quand on arrête le régime restrictif, parce que forcément, on ne peut pas se restreindre ad vitam aeternam, entre-temps, le métabolisme s'est adapté, il s'est ralenti, et donc le retour à une alimentation normale se solde au bout d'un certain temps, qui est différent d'un cas à l'autre, par une reprise de poids souvent même plus élevée que le poids de départ. Donc
ouais.
Là, on n'a vraiment rien gagné. Et deuxièmement, qui dit restriction alimentaire, dit aussi apport réduit en micronutriments, qui sont pourtant nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc c'est rarement la solution, c'est parfois une partie de la solution, mais une partie seulement, et ça doit être fait de manière intelligente. Il existe des protocoles intelligents, et malheureusement, ce ne sont pas ceux qu'on lit dans les magazines.
Et j'entends aussi l'importance de rester bienveillant envers soi-même. Et tu l'avais mentionné la dernière fois, de vraiment, quand on est dans un régime, que ça reste quelque chose de doux, d'accessible, qu'il n'y ait pas, je vais appeler ça de la violence morale. Mm-hmm. C'est, au plus on se contraint, on peut même générer des paradoxes à un moment donné qui sont quelque chose qui fait partie de l'ordre de la privation. Il y a encore plus de fascination par rapport à ça.
Tout à fait. Ça peut vraiment devenir obsessionnel et être complètement contre-productif. D'abord, ça entraîne le fait que les personnes assimilent vraiment l'alimentation à une souffrance ou à un problème, on va dire. Donc, une source de stress. Or, le stress est délétère pour toute une série de choses et pas juste la manière dont on se sent, bien que ce soit déjà en soi problématique. Mais donc, voilà, c'est absolument pas adéquat. Ça peut également entraîner ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire une obsession telle avec la nourriture que on mange en fonction de ce qu'on croit être les liens entre le poids et la santé d'une part et l'alimentation d'autre part. Or, voilà, c'est une quête de perfection qui est irréaliste. La perfection
n'existe pas. Ça peut générer des déséquilibres, en fait.
Complètement, voilà.
Contrairement à ce qu'on croit.
Contrairement à ce qu'on croit. Donc, en fait, la manière la plus saine de manger est ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Donc, il faut peut-être un tout petit peu d'entraînement pour y parvenir, mais c'est tout à fait possible. C'est le fait d'être complètement à l'écoute de ses sensations. Non seulement pendant qu'on mange, mais aussi avant et après. Alors pendant qu'on mange, c'est un petit peu similaire à une méditation, c'est-à-dire qu'en mangeant, on essaye de ne pas faire autre chose. On essaye d'être vraiment à l'écoute des sensations de la nourriture dans notre bouche. Donc forcément le goût, mais il n'y a pas que le goût, il y a aussi parfois des sons, il y a le craquant, il y a le fondant, il y a l'onctuosité, le mélange également, toutes ces sensations. Et parce qu'on a remarqué que ça permet de débloquer ces pensées de alimentation égale problème. Et ça permet en fait de manière très naturelle, parce que le corps sait, le conscient sait, et l'inconscient encore plus, ce qui est bon et ce qui est moins bon, et ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Donc si on est à l'écoute, on sent que ça passe bien ou pas.
D'accord, donc c'est pendant. L'avant
et l'après, c'est tout ce qui concerne en fait la faim et la satiété. Très souvent, on est amené à faire une prise alimentaire pour une autre raison que la faim. On a eu une réunion un peu compliquée. On se récompense en quelque sorte par un petit quelque chose de sucré. Mais ce n'est pas la faim à ce moment-là qui parle, c'est autre chose. Ou voilà, on a eu une journée difficile, on n'a pas pu parler à son enfant ou que sais-je. On a besoin de réconfort moral. Et si ce réconfort moral n'est pas à portée de main, eh bien voilà, on le substitue par une prise alimentaire. Voilà, donc c'est vraiment important d'essayer d'être plutôt à l'écoute de la faim et la satiété, qui sont les vraies sensations qui devraient guider la prise alimentaire, et d'identifier le reste pour ce que c'est, et d'essayer d'y répondre d'une autre manière.
Oui, j'entends. Je vais partager une anecdote, elle m'interpelle quand même. Moi, j'ai constaté depuis maintenant un mois et demi, et j'en ai régulièrement à la maison, alors je me disais, est-ce de là que vient l'expression « une poire pour la soif », mais j'ai une faim par rapport aux poires, en fait. Et je n'ai jamais eu ça avant dans ma vie. C'est vraiment très bizarre, je me dis. C'est que je pense qu'elle doit contenir quelque chose que j'ignore. Mais je me demande ce que c'est.
Alors, dans le cas de la poire, je ne suis pas très sûre. Bon, il y a forcément des vitamines et des minéraux, surtout des vitamines en l'occurrence, plus des fibres. Mais ce que tu dis, c'est quelque chose de tout à fait réel, qui a déjà été observé et documenté. Parfois, on a vraiment une envie particulière d'un certain type de nourriture. Et dans la grande majorité des cas, je dirais dans 99% des cas, il y a une raison physiologique derrière. Si j'ai le temps de partager pour moi-même une anecdote, lorsque j'étais petite fille, j'ai soudainement eu envie d'amandes. Et alors il me fallait, dans ma tête, je voyais des amandes blanches déjà avec la couche extérieure déjà pelée.
Ouais.
Et je n'en avais pourtant jamais vu. Et en fait, peu de temps après, on a réalisé que j'étais en carence de magnésium. Ah, or, les amandes sont une source très importante de magnésium. Et le fait d'enlever, de peler l'amande réduit la quantité d'acide phytique qu'elle contient, qui en fait contrecarre dans une certaine mesure l'assimilation des minéraux contenus dans les amandes.
Ah, ça c'est intéressant. Donc les amandes, excuse-moi, mais je vérifie, épluchées sont plutôt recommandées.
Oui. En fait, tout ce qui est oléagineux, d'ailleurs c'est valable également pour les légumineuses, mais il y a quelque chose dans ces végétaux qui entrave l'absorption des nutriments qu'ils contiennent. Ça s'appelle l'acide phytique.
Ouais.
Et donc, pour aller à l'encontre de ce problème, on peut soit faire tremper, germer.
Voilà, tremper, germer. J'allais te poser cette question, exactement.
Exactement. Et donc, si on fait tremper, par exemple, des amandes, eh bien, on constatera que la peau de l'amande s'enlève.
Oui. Ah bah voilà. Oui. C'était la raison pour laquelle on le recommandait. Et j'allais justement te le demander. Mais c'est passionnant parce que on a en effet cette capacité, si on prend le temps de s'écouter, d'avoir les intuitions et d'aller vers des aliments. Et moi, j'ai eu une carence en fer ces derniers temps. Alors, je ne sais pas si tu vas le confirmer ou l'infirmer, mais il semblerait que les graines de sésame seraient une source intéressante et je n'arrêtais pas d'en consommer.
Effectivement, je te le confirme. Ah bah, donc, c'est étonnant.
C'est quand même fou. Hein. Et j'avais un pot dans mon frigo de sésame noir, une pâte de sésame noir. Tu vois, et j'avais une envie de consommer ça, alors que ce pot, il était là pendant des mois dans mon frigo et je n'y touchais pas. Et puis quand je l'ai trouvé, je me suis dit, oh, c'est exactement ça, on le sent, c'est vraiment immédiat.
Tout à fait, c'est vraiment la preuve par A plus B que notre corps, c'est...
C'est vraiment ça. Oui. Chère Isabelle, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, nous sommes en train d'atterrir et tu viens encore d'amener des complémentarités passionnantes que nous avons vu par rapport à la gestion du poids, par rapport à toutes les différentes dimensions auxquelles on doit rester attentif. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est sans aller dans tous les détails techniques et précis que tu as donnés, et chers auditeurs, auditrices, je vous invite vraiment à réécouter cette émission qui est très, très, très structurée par rapport à la prise de poids, aux carences et aux troubles que l'on peut avoir au niveau d'un intestinal. Cette émission est remplie de très bons conseils sur quoi faut-il être attentif, quels sont les aliments qui peuvent provoquer un état inflammatoire, quels sont les aliments qui sont anti-inflammatoires et comment tout cela se structure dans nos habitudes et des petits gestes peuvent faire une grande différence.
Tout à fait.
Un petit mot de la fin, Isabelle.
Eh bien, je dirais, le petit mot de la fin, c'est vraiment de prendre soin de soi. C'est-à-dire que je crois qu'il y a vraiment une bonne marge de manœuvre pour chacun nous former un petit peu. Ça ne demande pas nécessairement beaucoup de temps. Mais je crois qu'il y a vraiment un grand potentiel d'améliorer notre propre santé sans devoir recourir à des médicaments, en essayant de suivre quelques principes de base qui sont vraiment scientifiquement prouvés. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans un autre numéro de cette émission, mais la prise de médicaments n'est jamais anodine. Et puis très souvent, on traite les symptômes et pas les causes. Tandis qu'avec la nutrithérapie, il y a vraiment une marge de manœuvre énorme pour agir sur la cause. Exactement.
Ouais.
Et pour prendre nous-mêmes les choses en main, sachant, et je le répète parce que ça c'est important, qu'on est tous différents, on a tous une apparence différente. Ça, on le voit bien, mais notre organisme, même si les mécanismes de base sont les mêmes, il est également différent d'une personne à l'autre. Et nous sommes nos meilleurs connaisseurs de nous-mêmes.
Oui, avec cette intuition. Mmh. Alors, je veux juste rappeler à nos auditeurs auditrices que, Isabelle, tu es l'autrice du livre « Ton alimentation, ta médecine ». Tu as des ateliers, des consultations. Est-ce que tu pourrais juste rappeler le site ou quelle est la manière par laquelle on pourrait te contacter
pour
bénéficier de tes conseils, tes consultations?
Donc, le plus facile, c'est d'aller sur mon site internet sur lequel on peut prendre rendez-vous pour les consultations, voir les dates et les informations pratiques des ateliers et également éventuellement déjà lire certains articles sur certaines pathologies ou certaines problématiques. Donc, c'est www.isabellemaes.com. Donc Isabelle Maes, tout attaché.
Voilà. Donc, chers auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission Coach Ella, diffusée les mercredis, rediffusée les jeudis à 15h30. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est également disponible sur Spotify. Vous tapez juste dans la bibliothèque Coach Ella, vous retrouverez toutes les émissions et par ordre chronologique. Isabelle, un tout tout grand merci et
merci
dans
à
une prochaine émission avec le plus grand plaisir.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.